per noi due. Più che il possesso delle cose.
Questa storia accade oggi, in Sardegna.
Quello che conta.
Basta!
È come dire.
Solo con lui, papo, papo, papo.
Il ricordarsi delle cose.
Sarà sepolto al cimitero con sua madre. La famiglia non si divide.
La memoria delle cose.
Laurence Kirsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présente à Pézenas et vous participez à la 60e édition de la rencontre cinéma de la ville. Et vous allez présenter bientôt un film à vous.
Mm-hmm.
Le titre de ce film, c'est...
Avec mes souvenirs.
Vous êtes documentariste.
Alors, avant de commencer sur moi, je voudrais quand même préciser que le film est une co-réalisation.
Oui.
Avec une jeune réalisatrice qui s'appelle Juliette Bourgoin. Donc moi, je suis effectivement documentariste. Oui.
Qui vous a amené à préférer ce type de réalisation plutôt éventuellement que d'autres ?
Que d'autres de la fiction, par exemple ?
De la fiction, du l'animation, court-métrage, avec une histoire.
Mmh. Écrite en amont. Bien, moi, le documentaire, c'est vraiment la rencontre avec les autres, quoi, avec l'altérité, avec l'étranger, avec l'étrangeté de l'autre, avec des environnements, effectivement, des milieux que je fréquenterais pas si je faisais pas de film, si j'avais pas la caméra pour aller à la rencontre, et comme intention de faire un film, parce que faire un film, c'est fabriquer une histoire avec les autres. Et cette aventure-là, elle procure déjà beaucoup de joie chez moi et beaucoup de désir aussi. Et puis, ça me déplace énormément, en fait. Et je parle souvent d'aventure filmique parce que, effectivement, quand je commence un film, je sais pas du tout ce qui m'attend. Et c'est tout le temps des grandes ouvertures, quoi. Des ouvertures vers l'altérité, vers une rencontre, vers l'inattendu. C'est ça aussi qui me plaît beaucoup.
Donc, au départ de votre motivation, il y a ce souci de découverte.
Ce souci de découverte et d'être surprise aussi par la rencontre. Alors, je parle souvent de rencontre parce qu'un film commence par une rencontre avec mes souvenirs. On était sur un collectif à Metz, où je vis, juste après les événements fort médiatisés, hein, des enfants qui étaient échoués sur la plage, etc., en 2015, je crois. Et donc, on était en train de construire un collectif sur Metz pour pouvoir accueillir des Syriens à l'époque, des familles syriennes. Et il y a Jean-Philippe Turpin de la CIMAD de Béziers qui est venu nous aider, quoi, nous conseiller, nous parler de son expérience. Et moi, je m'étais dit à ce moment-là, hein, j'aimerais bien rencontrer l'équipe, hein, qui travaille avec cette personne-là. Donc, 2 ans après, bon, j'étais sur différents films en 2015, mais 2 ans après, je suis allée au CADA. Donc cette maison, hein, en forme de L, avec ce magnifique arbre qui est au milieu, un sophora, on appelle l'arbre à miel, et ces mômes qui jouent au milieu de la cour. Et d'ailleurs, la première fois que je suis arrivée, on a joué avec eux à 1, 2, 3 soleil. C'est pour ça que la première version de mon film s'appelait 1, 2, 3 soleil. Et voilà, après, ça a été la rencontre avec le lieu, et puis l'accueil de tous les bénévoles, des salariés, et puis des gens qui vivaient dans cette maison en forme de L, justement. Et tout de suite, moi, j'ai vu en fait un nid, un lieu où ils trouvent du réconfort entre ce qu'ils venaient de vivre, hein, qui était terrible, et ce qu'ils allaient vivre. Enfin, le lieu est situé dans Béziers, au cœur de Béziers. Donc, on sait aussi que Béziers, c'est pas forcément une ville très accueillante pour les étrangers. Et donc, c'est un nid qui les accueille, hein, qui les répare, et puis après, qui les prépare en fait à découvrir cette nouvelle société qui est pas la leur, quoi.
Donc, au départ, il n'y a pas d'écriture. Il y a une rencontre.
Oui, oui.
Il y a un cheminement partagé.
Oui, oui.
Et au fur et à mesure que les images sont enregistrées.
Alors, il y a une écriture avant, en fait. Il y a une écriture pendant. Oui, il y a toujours une intention.
Oui.
À partir du moment où j'y vais, déjà en y allant, j'avais déjà l'intention de faire un film quand même sur... Je voulais en fait suivre la difficulté de cette procédure de demande d'asile. Donc je me disais, tiens, je vais faire un film du point de vue d'une famille, du point de vue d'une personne qui arrive, qui dépose sa valise. Donc c'est pour ça que dans le film, on voit Ayam, qui, d'ailleurs, Ayam, je l'ai rencontré au bout d'un an de tournage, mais moi, j'avais envie de, alors, j'avais filmé d'autres familles qui arrivent, qui font leur demande d'asile, et après, on voit toutes les difficultés, l'inscription des gamins à l'école, comment trouver de la nourriture, parce que là, ils sont logés, mais ils sont pas nourris. Après, la procédure d'asile, donc ça veut dire des échanges avec les salariés, les assistants sociaux, la CIMAD, etc., pour constituer le dossier. Après, éventuellement, la première réponse négative de l'OFPRA, qui leur dit non, on veut pas vous accueillir. L'appel à la CNDA, enfin, toute cette procédure très longue avec tous ces acronymes-là. Et voilà. Et donc, mon écriture, elle commence quand même à ce moment-là, parce que moi, j'ai besoin d'écrire pour savoir où je vais, mais j'ai besoin d'écrire un film aussi pour le proposer au producteur, et puis après, pour trouver un diffuseur qu'on n'a jamais trouvé, et des financements qu'on n'a jamais trouvé non plus pour ce film-là, quoi.
Oui, non, il ne s'agit pas simplement d'enregistrer des images, de faire de l'image, non, et puis ensuite de les monter avec une idée plus ou moins précise. Non, il y a quand même une rigueur.
Il y a une rigueur de l'écriture,
Même si elle se fait au fur et à mesure que vous découvrez.
Oui, elle se déplace au fur et à mesure. Oui, elle se déplace parce que. Donc, avant d'y aller, je voulais effectivement faire entre le début et la fin, au moment où ils sortent du lieu. Et après, j'ai rencontré les enfants, par exemple, avec qui j'ai beaucoup joué. On a organisé des ateliers cinéma, tout ça. Et j'ai trouvé que faire un film du point de vue des enfants, ça pouvait être aussi intéressant. Donc, j'ai exploré cette idée-là.
Il y a quelque chose d'une démarche de journaliste au moment d'une enquête
Il y a quand même, dans la démarche documentaire, effectivement, une volonté d'être un peu didactique, quoi, d'être un peu pédagogique, effectivement, renseigner sur les procédures, etc. Mais quand on parle de parti pris dans le documentaire, c'est qu'effectivement, en suivant une histoire un peu personnelle, en suivant une personne ou différentes personnes ou une famille, on va être dans une singularité. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, nous, c'est-à-dire que le singulier doit rejoindre l'universel. C'est-à-dire qu'après, l'histoire de cette personne ou l'histoire de la famille, elle doit faire écho avec ce que les autres ont pu vivre, quoi.
Avec mes souvenirs.
Oui.
Vous parlez donc des difficultés de l'accueil, des difficultés de ces gens qui viennent de l'extérieur, qui cherchent un refuge pour échapper à des conditions de vie insupportables. Mmh. Dans d'autres films, c'est d'autres thèmes qui vous ont interpellé, qui vous ont accroché.
Oui. Mais il y a quand même toujours au cœur de mes films, en fait, cette notion de... Et ça, je l'ai repéré il y a quelques films en arrière, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais rétrospectivement, je me suis dit, il y a quand même toujours le déséquilibre au centre de mes films. Et d'ailleurs, dans 1, 2, 3 Soleil, j'ai filmé ça, et je le filmais. Donc, à partir du moment où je commence à faire des heures et des heures d'images ou de séquences sur une situation, je me dis, c'est que ça doit faire écho chez moi, un truc. Donc, j'ai compris l'histoire du déséquilibre. Et en fait, le déséquilibre, c'est un peu tout le temps au cœur de mes films. Par exemple, dans Présence silencieuse, c'était mon père qui était malade, qui avait la maladie d'Alzheimer. Donc, il perdait l'intelligence des choses, etc. Et il nous échappait dans un univers qu'on ne comprenait pas bien. Donc, nous, on devait réajuster notre équilibre dans la relation avec lui pour le rejoindre. Dans 1, 2, 3 Soleil, qui est devenu Avec mes souvenirs, c'était ça. C'est-à-dire, je pense aussi que quand on est dans le déséquilibre, on est dans le mouvement et on doit rester dans le vivant, dans la vie, quoi. Et donc, je me dis, être dans le déséquilibre, ça veut dire que je me situe tout le temps dans ce qui est en mouvement. Voilà. Françoise Dolto, elle parlait de ça par rapport à la marche chez l'enfant. Et elle disait, l'enfant, il doit toujours être sur une jambe et sur l'autre, toujours en déséquilibre pour avancer. Eh bien, moi, dans mes films, c'est un peu ce que je me mets toujours en difficulté. Comme ça, j'ai toujours plein de moments de doute, quoi. Et où je dois trouver le pas d'après, quoi, en fait.
Vous vous êtes intéressé à la maladie d'Alzheimer, vous venez d'en parler dans Présence silencieuse. Vous êtes aussi intéressé aux jeunes, aux adolescents.
Ah oui, beaucoup. Ouais.
Emma, par exemple.
Oui. Mais les adolescents, il y a eu Emma, il y a eu Sylvaine avant, une jeune fille qui vivait très en marge de la société. Et il y avait eu Grandir avant. Ouais, l'adolescence, c'est un thème récurrent chez moi. Et je pense que c'est aussi, ça rejoint aussi cette idée de déséquilibre, c'est-à-dire qu'à un moment, là, on quitte une peau qu'on connaît bien, celle de l'enfance, qui est très rassurante. On n'est pas, il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion, quoi. On est un peu guidé par la famille, nanana. Et là, au moment de l'adolescence, on doit, on doit devenir l'auteur de sa vie en quelque sorte, hein, même si on est quand même toujours pétri par l'autre, etc. Mais ça, on le comprendra plus tard. Il y a une transformation importante et que j'arrête, sur laquelle j'arrête pas de revenir, c'est vrai. Ouais.
En fait, vous vous situez dans le temps qu'il y a entre le moment où le corps passe de l'appui d'une jambe avant d'arriver à l'autre.
J'aime bien être à cet endroit-là, ouais.
Prosper et la jeunesse pétillante. Hein.
Alors, Prosper et la jeunesse pétillante, c'est pareil, c'est une rencontre hein, oui, avec un...
Là, on est dans l'éducation nationale.
Là, on est dans l'éducation nationale et un petit peu à côté de l'éducation nationale. Alors, justement, sur Villa Ressources, hein, par rapport à la marche, par rapport à la société, moi, je me représente aussi tout le temps mes films comme ça. C'est un rond, quoi, qui représente la société. Bon, il y a ceux qui sont très bien au centre de cette société, qui sont bien en place et qui n'ont pas de problèmes, qui en ont moins de problèmes existentiels, etc. Il y a ceux qui sont complètement à la marge, à l'écart de ce rond-là, donc à l'extérieur. Et puis il y a ceux qui sont dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Prosper à la jeunesse pétillante, c'est Prosper Bambara, que je connaissais depuis longtemps parce qu'il était l'époux d'une amie à moi depuis longue date. Mais en fait, je l'ai vraiment rencontré un jour, un été, il était en vacances et il m'a parlé de son boulot pendant des heures et je me suis dit vraiment, faut que j'aille voir de près ce qui se trame chez lui, quoi. Et ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il était dans son bureau au centre d'un CFA. En plus, moi, j'ai des comptes à rendre avec l'école, hein, parce que je m'y suis pas très bien trouvée à l'école, et je trouvais que les gamins qui arrivaient de CFA, c'est quand même, on dit bon, l'orientation dans les institutions scolaires comme ça, où on travaille de la main, etc. C'est quand même des orientations qui sont positive et tout, mais bon, c'est quand même souvent, majoritairement, je vais pas faire de généralité, mais souvent les gamins qui ont été en échec avec l'école, dont l'école n'a pas voulu et qui se sont pas adaptés à l'école. Et donc, je trouvais que lui, il valorisait énormément ces mômes-là, puisqu'il travaillait dans un CFA. Et quand la première fois je suis allée le rencontrer pour la période de repérage, il me disait, tu vois, il y a mes deux ingrédients pour mon travail, c'est du temps. Je consacre énormément de temps aux personnes qui viennent ici dans mon bureau et cette boîte de Kleenex pour qu'à un moment ils puissent pleurer s'ils ont envie et en fait se débarrasser de leur habit social s'ils ont besoin de tout déposer, quoi. Alors les jeunes comme les enseignants aussi. Et voilà, c'était un endroit à l'intérieur de l'institution où on formate quand même un peu les jeunes à devenir de bons petits ouvriers pour plus tard. Et là, ils étaient autorisés. Il s'est envoyé chez le CPE, hein, le conseiller pédagogique d'éducation, c'est ça ?
Principal d'éducation,
parce qu'ils avaient dérogé à la règle. Mais il n'empêche que quand ils arrivent dans son bureau, eh ben souvent ils sont valorisés, écoutés, et puis après ils posent des conditions plus sévères s'il y a besoin. Mais voilà, j'avais envie de faire un film là-dessus. Ouais.
Vous avez tourné à Pézenas je cherche le titre.
Villa Ressources.
Villa Ressources, ouais, voilà. Ouais. Là aussi, pareil, on est dans un déséquilibre.
Et c'est encore un lieu de vie, en fait, hein. Comme le CADA, hein, Centre d'accueil d'hébergement des demandeurs d'asile. C'est le Villa Ressources, c'est un film sur le lieu ressources, hein, qui est situé à Pézenas, hein, où il y a une formidable équipe, où elles sont principalement deux salariés, quand je filmais. Après, il y a d'autres personnes qui s'ajoutent à ça, mais et c'est vraiment ce que j'aimais beaucoup aussi dans ce lieu-là, c'est qu'il y a un mélange des genres en fait. C'est un lieu culturel parce qu'il y a l'accueil au niveau de la chorale des Sangs, et puis c'est par le biais de la chorale des Sangs d'ailleurs que je les ai rencontrés à un spectacle à Montagnac au moment où Brume Matinale existait. C'est fini, hein, Brume Matinale. Hein.
Non, c'est pas encore tout à fait fini.
D'accord, ok, pardon.
Après Dissipation des Brumes Matinales.
D'accord. Et donc, j'avais rencontré cette chorale-là et je voyais bien qu'il y avait des gens, des personnes de milieux très différents et je m'étais dit, ça, c'est un lieu formidable, donc j'y suis allée et voilà, j'ai fait un film sur ce lieu-là.
C'est vrai que c'est un lieu de partage, d'écoute, des valeurs qui vous tiennent à cœur.
Ouais, ouais. Et puis, j'apprécie aussi beaucoup, c'est de Muriel et Odile Marage qui accueillent les gens. Et on a toujours l'impression que c'est deux roseaux hein, qui s'assouplissent. Enfin, quand il y a des grandes rafales, des tempêtes, etc., humaines, elles se plient, mais jamais ça rompt, quoi. Elles sont toujours là comme deux piliers hein, hyper solides et très rassurants pour les gens qui fréquentent le lieu. Ouais.
Vous parliez il y a quelques instants de la chorale des Cents. Mm-hmm. Donc la musique.
Vous allez me demander de chanter une chanson. Tout à l'heure, on va les enregistrer.
Aucun inconvénient. Mais par contre, je vais vous renvoyer vers le documentaire que vous avez fait sur Pierre Vassilou.
Ah oui, bah oui, ben Pierre. Oui. Ouais, ouais, ouais. Une balade musicale à travers sa vie, ouais. À Mézois, ouais. Pierre, il a été Mézois, mais c'est pas au moment où il était Mézois que je l'ai rencontré, c'est au moment où...
Il me semble bien qu'il a vécu.
Non, il a vécu. Bon, on s'est croisés quand il était Mézois, mais lui était très timide, en fait. Hein. Oui. Et moi, je l'étais également, donc j'ai jamais trop osé le solliciter. Puis j'avais pas l'idée du film avant. Et je sais plus quand cette idée de film est née, mais un jour, je lui ai écrit une lettre et je lui ai dit j'aimerais, en fait, faire un film comme une balade. À la fois dans Seth, parce qu'en fait Seth c'était devenu un peu sa scène vivante, quoi, où il faisait des impros, il déconnait comme ça avec les gens, il commençait des petites chansons, c'était pas vraiment des récitals, hein, mais il s'amusait parce que en plus je l'ai rencontré à la fin de sa vie où il était déjà malade de la maladie Parkinson. Enfin quand je lui ai proposé, je savais pas, et très vite j'ai compris. Enfin il me l'a expliqué. Et donc voilà, c'était une vraiment chouette rencontre avec Pierre Vassilou.
Vous avez réalisé une quinzaine de documentaires.
Oui, voilà. Je n'ai pas compté, ouais. Mais...
mais je vois préciser en région Occitanie.
Eh oui.
C'est vrai que vous parlez quand même du local.
Ouais.
Je veux dire, vous n'avez pas été chercher très très loin les sujets
non, c'est vrai,
que
ouais.
vous avez abordés.
Ouais, ouais. C'est une démarche. Écolo, peut-être.
Peut-être oui.
Un jour, je me suis dit, je vais faire des films en vélo. Alors, bon, le premier film que j'ai fait, c'était au Burkina Faso. C'était Le Temps d'un regard, ouais. C'était un film que j'ai fait quand j'ai terminé l'école des Beaux-Arts. Donc, je suis allée là-bas. Parce que j'ai commencé à travailler dans des films institutionnels, de commandes, tout ça, dans les années 90, où on gagnait beaucoup d'argent. Il y avait des budgets colossaux pour ces films-là. Mais j'ai travaillé une petite année, et je me suis dit, non, mais je m'y trouve pas du tout à ma place dans ce milieu-là, ça va pas. Et d'ailleurs, le réalisateur avec qui je bossais sur ces films institutionnels m'a dit, oh, mais tu devrais reprendre ta caméra et refaire ce que tu faisais aux Beaux-Arts et tout. Donc j'ai acheté une petite caméra et je suis allée au Burkina. Parce qu'en fait, ce qui me questionne aussi beaucoup, c'est notre rapport au temps et à l'urgence. Cette urgence, l'urgence d'être dans l'urgence, dans la rapidité, là, ça me... Et d'ailleurs, c'était au cœur du film avec mon père, hein, sur la maladie d'Alzheimer, qui s'appelle « Présence silencieuse ».
Oui,
on se pose, quoi.
J'ai vu que vous aviez fait le choix de travailler dans la lenteur.
Oui, voilà, c'est vraiment la lenteur qui m'intéressait. Et quand je suis allée au Burkina, c'est ça que j'ai questionné, quoi, le rapport au temps des paysans qui vivaient au Burkina. Et ensuite, quand je suis arrivée à Metz, parce que moi je viens de Champagne, j'ai rencontré les pêcheurs de l'étang de Thau, et enfin tous les gens qui travaillaient sur l'étang. Et ce que j'ai interrogé à travers eux, c'est leur manière de faire attention en fait à la météo, et puis d'être dans cette lenteur aussi du rapport à la nature, quoi. Après, pourquoi je suis pas allée les chercher très loin, mes films, déjà mon compagnon m'a dit très rapidement, tu vas pas retourner, parce que j'avais fait le film au Burkina Faso et puis un film avec l'abbé Pierre, donc on était allé à Paris, en Normandie, tout ça, et donc j'ai eu des enfants, donc je suis restée localement. Ensuite, ça me plaisait bien, effectivement, l'idée, parce que je faisais des films sur l'écologie. J'ai fait un film qui s'appelle Naissance de Barthas sur la construction d'un éco-hameau. Sylvaine, c'était une jeune fille qui vivait en marge de manière très alternative et très écologiste. Et donc, je me disais, si je fais ça, si je fais des films pour prôner l'écologie, je vais pas prendre l'avion pour aller à l'autre bout et tout. Donc, vraiment, j'ai essayé de... Après, j'ai fait un film qui questionnait le rapport au travail. Je l'ai fait à Metz pour être chez moi. Et après, une raison aussi très importante qui est économique, Déjà, ça coûte moins cher, voilà. Donc, on peut faire un film, parce que moi, le financement de mes films, je les trouve souvent après les avoir faits. Je les fais et puis je trouve. Hein. Donc, l'investissement de mon temps, bon, ça va. Mais après, s'il faut... Et puis, une raison aussi, c'est que je les ai beaucoup... ils ont été beaucoup en coproduction avec France 3 Occitanie, qui a pris pas mal de mes films. Donc, il faut que ça soit en Occitanie. Et puis, le financement région également.
Puis peut-être à la proximité aussi, ne vous impose pas les contraintes que vous pourriez avoir pour de revenir loin, si vous aviez choisi de travailler loin.
Oui,
la proximité fait quand même garder une certaine indépendance par rapport à, à l'organisation du temps.
C'est ça, c'est-à-dire que si j'ai besoin en fait de beaucoup plus de temps pour tourner un film, eh bien j'y retourne, même si la production ne me le finance pas, par exemple, quoi. Parce qu'on a besoin de s'immerger dans un milieu, on a besoin de rencontrer vraiment les gens. Au CADA, par exemple, ben, on ne peut pas débarquer avec des personnes qui sont étrangères et puis les filmer direct. Hein. Et en ça, on se différencie beaucoup d'une démarche journalistique. On filme pas, enfin moi je ne filme pas la première fois que je rencontre les gens. Il y a déjà une rencontre des corps, quoi, de nous.
Je comprends un peu mieux maintenant pourquoi... Quand je vous ai posé tout à l'heure la question du pourquoi pas la fiction, le cinéma de fiction, avec des histoires et tout ça, vous avez plutôt opté vers le documentaire. C'est-à-dire que vous avez une façon de travailler qui ne supporterait pas l'urgence. L'urgence pour respecter des devis, pour respecter...
Ah oui, non, non, non.
Des choses comme ça, quand vous avez besoin de vous imprégner.
J'ai besoin
du milieu dans lequel que vous filmez, quoi.
Oui. L'urgence, pour moi, c'est pas tellement fructueux. Bon, après un cadre, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que les derniers films que je suis en train de réaliser, le dernier puis celui d'avant, Quel talent à Metz, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Mais France 3, par exemple, a dit d'accord pour le film avant que je tourne le film. Donc ça, je peux reconnaître que c'est un sacré luxe, parce qu'en fait, ça nous porte complètement différemment. Et puis après, le producteur fait des demandes à la région, etc. Donc, il y a un minimum de financement. Et ensuite, moi, je m'arrange effectivement toujours sur ce rapport économique. Par exemple, là, j'ai un film que je tourne à Limoux. Ben, j'ai besoin énormément de temps, là, en l'occurrence, pour digérer les images que j'ai tournées. Donc, parce que quand on travaille avec France 3, ils nous proposent 6 semaines de montage. Mais en fait, moi, j'ai besoin de 5 mois de montage. Alors, je travaille 4 mois toute seule. Et donc, j'apprends à travailler sur le logiciel sur lequel travaille France 3, etc. Donc, j'arrive toujours, en fait, à contourner les contraintes économiques qui sont pas du tout les miennes et qui, en plus, dans le rapport aux gens, ça créerait des relations que je veux pas, quoi.
Donc on a vu votre démarche par rapport à la création, enfin à la réalisation de vos documentaires. Il y a la phase bien sûr de production, on l'a évoqué. Il y a ensuite la phase de distribution.
Mm-hmm.
On a vu que vous aviez un partenariat, enfin on vient d'entendre que vous aviez un partenariat avec France 3 sur certains de vos films.
Mm-hmm.
Vous avez travaillé avec Occitanie Film.
Non, pas encore.
Structures de ce type.
Oui, on va. Enfin, moi On avait failli travailler avec Occitanie Film sur ce film-là, qui était pratiquement accepté, mais finalement il n'a pas été. Je ne connais plus les raisons. En fait, sur ce film-là, avec mes souvenirs, les premières versions, je travaillais avec une productrice qui m'a bien accompagnée, qui s'appelle Chantal Dubois, à Home Film, qui est sur Monoblé. Et effectivement, comme France 3 nous avait pas pris le projet à l'écrit, on avait tenté Occitanie Film.
Ça n'a pas empêché le film d'exister.
Non, ça n'a pas empêché le film d'exister. Mais c'est vrai que cette commande d'une somme de 4000 euros qui correspond pas du tout au budget d'un film nous a bien reboosté pour aller rechercher toutes mes archives, donc des archives que j'avais tournées pendant les 4 ans. Et puis de pouvoir faire une co-réalisation avec une jeune réalisatrice. Et pour moi, c'était très intéressant, ça.
Tout à l'heure, on évoquait le travail de montage qu'il y a.
Mm-hmm.
Compte tenu de la façon dont vous procédez, la phase du montage doit être excessivement importante d'une part, par rapport au produit fini, mais aussi ça doit être un travail immense pour faire le choix des séquences, des images, puis ensuite les coordonnées, ajuster le fil conducteur.
Ajuster le fil conducteur et surtout le trouver, en fait, ce fil rouge. Et je donne des cours à la fac, enfin, je suis chargée de cours en tant que professionnelle, et du coup, j'apprends beaucoup en transmettant, c'est super. Et je leur en parle souvent en disant, c'est comme une grosse pelote de laine qui est tout emmêlée. Et en fait, on tire sur un fil qui est un peu le fil rouge du film, et la tension dramaturgique du film aussi, ou le fil du désir aussi, comment je suis reliée à mon film. Et si le fil ne se casse pas, c'est que je suis sur le bon chemin, quoi. Mais en fait, c'est un travail hyper méthodique. Donc, quand je rentre de tournage, souvent aussi, je me compare à un pêcheur. Je ne vais pas dire une pêcheuse, mais un pêcheur. Je vais glaner des images comme ça, avec des rencontres, etc. Et après, je ramène à la maison ce que j'ai récolté comme image. Et ensuite, je visionne. Et comment ça me touche, comment ça raconte une histoire, je les classe. Alors après, je peux faire des séquences par personnage, par situation, etc. Et au fur et à mesure du classement, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ingère les images. C'est très organique, en fait, mon travail, j'ai l'impression. Et souvent, j'ai besoin de saisons aussi. C'est-à-dire que voilà, j'ingère, et puis à un moment c'est digéré, et au moment du montage avec la monteuse, hein, c'est important de travailler en collaboration à ce moment-là. Alors sur la structure du film, je peux travailler avec une première monteuse, et après sur la finition avec une deuxième monteuse qui me renvoie des choses que moi j'ai pas vues, et à ce moment-là se construit le film. Ça c'est un peu jubilatoire à ce moment-là. Hein. C'est quand on parle d'accouchement, c'est ça quoi.
Ouais, c'est ça.
Et qu'en fait ça se fait. Ça se fait à mon insu, souvent. Je me dis, mais ça y est, c'est en train de... Tellement j'ai... Alors, plus je travaille dessus, voilà, plus j'enregistre les images. Et c'est pas un travail d'exercice de mémoire. C'est-à-dire que les choses se mettent en place et à un moment, ça sort, quoi. Et l'effort, il est... Alors, il y a des moments de doute, hein, il y a des moments de tension tout le temps, hein, où je me dis, mais il n'y a pas de film, c'est pas intéressant, ça va intéresser personne... Et puis, mais voilà, c'est du travail hein, d'ouvrière. Hein. Je suis une ouvrière très méthodique, hein, très appliquée. Et tous les jours, j'y vais. Et...
C'est un peu l'image qui me venait à l'esprit.
Ouais, d'ouvrière.
Vous êtes, à vous entendre parler de ce que vous faites, on sent que vous êtes une professionnelle exigeante, mais aussi on sent qu'il y a le souci d'une approche artisanale.
Ah oui, j'adore cette démarche-là. Ouais. Le souci de l'artisanat avec bien, je sais pas, un respect aussi. Ma mère est sculpteur, elle fait de la sculpture avec différents matériaux. Et moi, au moment où je faisais le film Présence silencieuse, je me disais, mais en fait, moi aussi, je suis sculptrice. Je sculpte le temps. Et ce temps-là, à chaque fois, c'est ces petits morceaux, quand je les coupe et quand je les agence entre eux, c'est l'orfèvrerie, ça me plaît bien ce mot-là, mais c'est aussi du patchwork, c'est aussi des pulls, c'est aussi... Et il faut que les petits morceaux de temps, ça soit vraiment respectueux de ceux à qui j'ai pris ce temps-là, quoi. Et ce qui me bluffe à chaque fois, c'est la confiance que m'offrent les gens que je filme, parce qu'en fait, ils m'offrent d'eux-mêmes à chaque fois. Et moi, j'organise mon travail d'auteur, c'est de les organiser pour raconter une histoire, quoi. Alors, c'est bien parce que jamais encore personne m'a dit « Non, je veux pas que ce film existe, ça me ressemble pas, je m'y reconnais pas. » Ils ont jamais dit non, mais je pétoche à chaque fois.
Hein. Je comprends, mais tout ça démontre bien que vous avez touché juste, quoi, en fait.
Alors, sur cette idée de la vérité, ouais. C'est une quête de vérité commune. Alors, eux, ils la cherchaient pas forcément au départ. Mais finalement, ils sont tellement complices du film. Surtout quand je passe, par exemple, 10 ans avec Emma, quand je la filme de ses 13 ans à 23 ans. Elle est complice. Elle découvre aussi mon travail, tout ça. Donc, ce liant de la vérité, elle le partage, ouais. Et elle le questionne pas du tout, d'ailleurs.
On n'a pas tellement parlé de la bande son, et en particulier du rôle de la musique dans vos documentaires.
Alors, dans Quel talent, peut-être, c'était le plus travaillé. Bon, après, avec mes souvenirs, ce qui est super chouette, c'est que Ayam, un des personnages principaux qui est le jeune Syrien, en fait, il apprend le français en écoutant des chansons françaises. Et la première fois que je l'accompagne à la médiathèque André Malraux à Béziers, il découvre les chansons de Brassens. Et c'était super, quoi, parce que quand il rentre chez lui, il essaye d'apprendre Brassens avec ça. Et puis un jour, on se retrouve encore une fois dans sa chambre et il me dit « Ah, mais j'ai entendu une musique dans le magasin dont je ne vais pas citer le nom. » Du coup, il allait faire ses courses. « Mais j'ai adoré cette musique, ça m'a touchée, tout ça. » Enfin, il ne parlait pas aussi bien français que ça, mais donc je comprenais. Et il me disait, ça chantait « No Rinderin, No Rinderin ». Alors, on a cherché. Et à un moment, je lui dis « Mais c'est non, rien de rien. » Ah. Et donc, il descend.
Je pas du tout.
Moi non plus. No Rinderin. Alors, et en fait, je lui dis « Mais je ne te dirai pas. Va voir Jean-Philippe et Daniel en bas, et les gens de la CIMADE en bas pour leur demander de te faire écouter, donc là, et donc j'ai tourné une séquence avec ça après, et donc c'est revenu piaf dans l'histoire du film, et voilà, ouais ça, en fait la musique je la trouve souvent à la fin, quoi, quand pareil, quand j'ai glané des petits morceaux sympas. Mais dans Quel talent, le film sur la cité HLM à Metz, c'était un jeu cinématographique un peu qu'on a mené avec une jeune fille qui voulait apprendre à faire du cinéma, et finalement on a construit avec un musicien de la musique à partir du son produit par les talents des gens. Donc si c'est la fille qui Rachida qui fait la cuisine par exemple, ben ça va être tous les éléments de cuisine qui vont construire la musique. Donc là lui Marc Siffer, il a bossé longtemps pour là, faire de l'orfèvrerie avec tous les sons récoltés.
Laurence Hirsch, comme je ne doute pas que nous ayons donné, à partir de cet entretien, envie aux gens qui nous écoutent de sortir de vos films, pour terminer l'émission, la question que je voudrais vous poser, c'est où peut-on les trouver ?
En replay sur France 3, on peut retrouver Quel talent, Emma, les autres films, je ne sais pas si... Villa Ressource. Après, on peut m'écrire par mail et j'envoie les liens des films s'ils veulent.
Ah ben voilà la bonne information. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques instants en notre compagnie pour nous parler de votre travail de documentariste. Et à bientôt.
Peut-être, oui, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup en tout cas.